Mais vous le savez, ce texte fait partie de l'Évangile, de l'Évangile de Jean en particulier, et il est bon de lire même encore dans ce dernier miracle. Nous allons voir que dans ce miracle, Jésus manifeste un certain nombre de choses. L'évangéliste Jean, quand il parle de ces miracles que Jésus a fait dans sur les sept dans son évangile, et il donne à chacune une valeur particulière. Il emploie d'ailleurs un mot très particulier pour parler des miracles. Vous savez qu'il y a plusieurs mots dans le texte original grec de la parole de Dieu, mais aussi en français et dans toutes les langues. Pour désigner les miracles, on parle parfois de miracles, on parle parfois de prodiges, on parle aussi de signes. Et le mot signe est un mot employé par l'évangéliste Jean dans son évangile pour désigner les miracles de Jésus. Je crois que c'est important déjà de souligner parce que l'évangéliste Jean a écrit son évangile dans un but très précis. Ce but, vous savez qu'il l'explique, il le décrit à la fin de l'évangile, au chapitre 20, le verset 30. Il est le seul évangéliste qui précise vraiment son but. Il écrit Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de l'évangile de Jean, je crois qu'on peut dire aussi des autres évangiles. Le but que Dieu a inspiré à ceux qui ont écrit les évangiles, et sans doute par-delà des évangiles, toute la parole de Dieu, c'est que ceux qui les lisent découvrent la foi, qu'ils laissent la foi grandir dans leur cœur à la lecture des évangiles et des autres livres, afin qu'en croyant en Jésus, afin qu'en mettant leur foi en Jésus, ils puissent avoir la vie en son nom. Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible simplement par souci de culture. Il nous arrive parfois de voir à la télévision ou d'entendre à la radio des gens qui parlent de la Bible d'une manière extraordinaire. On se dit que ces gens-là donnent l'impression de connaître la Bible par cœur, d'en connaître toutes les histoires, d'en connaître même les discours. Je pense aux épîtres de Paul, de pouvoir expliquer tout ce que Paul a expliqué par exemple dans l'épître aux Romains. Et pourtant, ces gens se disent non-croyants, voire même athées. On peut donc lire la Bible sans croire. Mais Dieu dit dans sa parole que le but pour lequel sa parole a été préservée, et vous savez que dans notre pays de France, en tout cas dans ce pays, la Bible a subi beaucoup de tourments, beaucoup de persécutions. Il y a quelques siècles encore, pas très loin d'ici, en Paris, des hommes étaient mis à mort, des femmes étaient mises à mort, parfois de manière cruelle, sur le bûcher, tout simplement parce qu'ils possédaient la Bible. Mais nous pouvons rendre le droit à Dieu, parce que sa parole, la Bible, est toujours là, parmi nous. On nous dit même que, d'après, je ne sais quelle méthode de calcul, mais d'après simplement les ventes, on dit que la Bible est le livre le plus vendu dans le monde entier. C'est donc la preuve que Dieu a préservé sa parole. Et cette parole, nous est-il dit ici, elle a été donnée pour que nous croyions. Dieu veut que tous les hommes croient, afin qu'en croyant, ils découvrent le mystère de la vie, le vrai sens de la vie. Alors dans l'évangile de Jean, l'évangéliste Jean a sélectionné, parce qu'il dit qu'il y en avait beaucoup d'autres miracles, il en a sélectionné sept, et j'aime bien faire remarquer ce qu'un autre commentateur de la Bible plus connu que moi a dit un jour, il a dit chaque miracle de Jésus, chaque signe que Jésus a accompli, qui sont racontés dans l'évangile de Jean, a une signification particulière. Et il dit chaque signe raconté dans cet évangile montre que Jésus, donc Dieu, maîtrise un domaine particulier de la vie. Et dans ce premier miracle, nous voyons que Jésus maîtrise tout simplement à la fois la quantité et la qualité. Partant du principe que n'est pas du tout non plus question de dire que Jésus a encouragé la consolation. Nous verrons tout à l'heure que c'est peut-être tout autre message qu'il a voulu faire passer dans cette action. Cela s'est donc passé dans la ville de Cana. La ville de Cana se situait à environ 6 km de Nazareth, la ville où Jésus a grandi. C'est sans doute pour cela que sa mère avait été indiquée. Alors je passe sur les différents commentaires qui ont été faits à ce sujet, c'est sans doute parce que Marie était une proche parente des mariés qu'elle a été invitée. Bon, vous savez, on peut être invité dans un mariage à toutes sortes de titres. On peut être invité parce qu'on est de la famille, bien sûr. On peut être invité parce qu'on est des voisins, on peut être invité parce qu'on est des amis, on peut être invité parce qu'on est des collègues. Il y a toutes sortes de raisons d'inviter quelqu'un. Marie est invitée. Et le plus important, bien sûr, c'est que Jésus aussi, son fils aîné, a été invité. Et comme Jésus avait quelques disciples déjà à l'époque, probablement qu'il en avait 5, voire 6, d'après le premier chapitre de l'Évangile de Jean, il avait déjà rencontré 6 de ses prochains, de ses futurs disciples. Donc ils étaient arrivés à 7. Certains ont dit que c'est parce que 7 personnes sont arrivées au dernier moment, en plus qu'il n'y a plus de 20. Alors, ça laisse penser qu'il y avait une vingtaine ou une trentaine d'invités. Parce que s'il y avait une centaine d'invités, 7, c'est peut-être. 7, c'est toujours 7, c'est 7% de plus. Ce n'est pas eux qui vont finir le vin, le reste. On connaît Jésus et ses disciples. Ils avaient une autre réputation. L'important, je crois qu'il est d'abord dans le fait que dans ce premier miracle, dans ce premier signe que Jésus a fait, il l'a accompli dans le cadre de la vie familiale. Il l'a accompli dans le mariage. Le mariage, c'est le début de la vie familiale. C'est la vie de tous les jours. L'homme rencontre la femme, Jésus a créé Adam, il a créé aussi Ève, afin qu'ils puissent fonder une famille ensemble. Et cela s'est répété tout au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est dans le cadre du début de la vie de famille, dans le cadre de la vie d'un couple qui démarre, Jésus a accompli son premier miracle. Et je pense que cela nous parle de l'importance que Dieu, que Jésus, accorde à la famille, au mariage, bien sûr, et à la famille ensuite. Jésus a accompli ce premier signe, et je précise en passant qu'un signe a toujours une signification. Un miracle, quand on pense à un miracle, on pense à quelque chose d'extraordinaire. Quand on pense à un prodige, on pense aussi à quelque chose de phénoménal. Mais un signe, quand on pense au signe, il y a cette expression que ce mot que Jean emploie tout au long de son évangile pour parler du miracle de Jésus, on pense tout de suite au sens, à la signification. Jésus a accompli ces miracles pour enseigner quelque chose, pour spécifier quelque chose. Et il est certain que le but des miracles, ce n'est pas pour, excusez-moi l'expression populaire française, pour épater la galerie, pour émerveiller les gens, mais c'est pour leur faire savoir qu'il y a au ciel un Dieu qui est puissant, qui est vivant, un Dieu qui aime les hommes au point d'être prêt à faire des miracles dans le monde. Le troisième point, c'est que ces amis, ces époux, l'homme et la femme qui se sont mariés ce jour-là, et leur entourage immédiat, familial, ont quand même pensé à inviter Jésus. Et vous savez que lorsqu'on organise une fête, lorsqu'on organise un rassemblement, même dans la vie de tous les jours, il est important que nous invitons des gens, de ne pas inviter n'importe qui. D'inviter des gens que l'on connaît, d'inviter des gens avec lesquels on pense qu'on va passer un bon moment. Et les époux, ce jour-là, ont invité Marie.
Pour avoir bien sûr vu mon âge assister à pas mal de mariages, j'ai toujours regardé avec une certaine curiosité le fait que c'est l'un des rares moments dans la vie où il faut que même les moindres détails soient parfaits. C'est un jour de haute tension, les mariages. Pourtant, ça devrait être un jour de... Alors, c'est évidemment aussi un jour de joie, mais c'est un jour de haute tension, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le moindre détail qui aille de travers. Sinon, ça peut facilement virer à la catastrophe. Ce jour-là, nos braves amis qui avaient invité Jésus, mais qui ne se doutaient pas de ce que Jésus allait faire pour eux, peut-être qu'ils se disaient, ils ne pensaient même pas que Jésus allait faire quelque chose d'important pour eux. Jusqu'à ce moment-là, le centre de l'attention était bien sûr sur le marié et la mariée. Certainement qu'on devait se dire comme aujourd'hui, mais la mariée est vraiment très belle, parce qu'en général, on dit toujours que la mariée est belle. D'ailleurs, on demande souvent, quand on n'a pas pu assister à un mariage, comment était la mariée ? J'ai rarement entendu des gens dire en premier, comment était le marié ? Le marié, il est quelconque, hein, il a un costume, et puis voilà. On ne demande même pas quelle couleur était le costume ou la cravate, s'il a une cravate. Mais comment était la mariée ? Alors, ils étaient tous les deux au centre de l'attention, jusqu'à un certain moment. Nous sommes souvent le centre de l'attention de notre propre vie, et je dis ça d'une manière générale, pas bien sûr pour les chrétiens qui ont bien sûr Jésus au centre de leur vie, mais dans la vie de tous les jours, on est souvent le centre de sa propre vie, sauf ou jusqu'à ce qu'il y ait un gros problème. Parce qu'alors on se dit, qui va bien pouvoir m'aider ? Qui dans mon entourage, parmi les gens que je connais, va bien pouvoir m'aider ? Et ce jour-là, ils sont devenus, bien sûr, ils étaient le centre de l'attention, jusqu'au moment où une catastrophe est arrivée. Dans une fête comme celle-là, le vin était le symbole de la fête. Vous savez que la Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'homme, mais il ne faut pas qu'il soit trop heureux non plus. Et la Bible dit beaucoup d'autres choses sur le vin, parce qu'elle dit qu'il peut conduire aussi à la débauche. Et beaucoup de textes de la Bible nous montrent que l'excès de vin peut conduire à des catastrophes. Les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui étaient sacrificateurs, les premiers sacrificateurs avec leur père dans le tabernacle, ont payé de leur vie le fait de s'être enivrés avant de prendre leur service dans le tabernacle. C'est montré qu'il faut vraiment faire très attention à cela. Par ce miracle, Jésus a voulu montrer plusieurs choses. Premièrement, qu'il s'intéresse à tous les aspects de notre vie, à nos joies, mais également à nos peines, à nos grands moments, voire même nos moments d'euphorie, mais également à nos moments de difficulté. La deuxième chose qu'il a montré, c'est qu'il est prêt toujours à intervenir quand nous sommes en difficulté. Il est prêt. Au moment où les responsables du repas, ou comment on les appelle, les ordonnateurs du repas, se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de vin. Je ne sais pas comment cela s'est passé, nous n'avons pas de détails, mais c'est venu aux oreilles de Marie. Pour cela que certains ont pensé que c'était quelqu'un de la famille de Marie, peut-être une nièce ou un neveu qui se mariait ce jour-là, peu importe. La nouvelle du manque de vin est arrivée aux oreilles de Marie, et à ce moment-là, Marie est allée voir Jésus. Pourtant, Jésus n'avait pas vraiment commencé son ministère. Il n'avait pas fait encore de miracles. Dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, il n'est pas dit que Jésus avait fait des miracles. Et d'ailleurs, l'évangéliste Jean, à la fin de ce récit, dit « Ce fut là le premier des miracles que Jésus a accompli. » Mais Marie savait que Jésus n'était pas un homme comme tous les autres. Il y avait quelques petits incidents qui s'étaient passés. Excusez le mot « incident ». Avant la naissance de Jésus, déjà, elle avait eu une visite un peu particulière, celle d'un ange. Elle savait que l'enfant qu'elle portait allait être un enfant hors du commun. Et puis elle a vu comment Jésus a grandi à l'âge de 12 ans quand il était dans le temple et qu'on l'a retrouvé en train de discuter avec, pas n'importe qui, les docteurs de la loi. Donc les hommes, en plus dans la capitale Jérusalem, donc les hommes qui connaissaient le mieux la parole de Dieu. Il discutait avec eux et il les a profondément impressionnés. Marie savait donc que cet enfant-là allait, et ce jeune homme maintenant, allait certainement faire des choses extraordinaires. Avait-elle compris tout ce que l'ange lui avait dit ? Avait-elle compris qu'il serait le sauveur de son peuple ? Et quelle signification pouvait-elle donner à ce mot ? Nous ne le savons pas. Mais tout ce que nous savons, c'est que lors de ce mariage, à un certain moment, quand elle a compris qu'une catastrophe était en vue, était même déjà arrivée, elle est allée le voir. et lui a dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Et il y a eu cet échange un peu curieux entre Marie et Jésus, où Jésus lui dit, quand elle vient le voir et lui dire, ils n'ont plus de vin, Jésus lui dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venue. Et le fait que presque aussitôt sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alors on a essayé, les commentateurs de l'évangile ont essayé d'expliquer cette parole et probablement que cette parole n'a rien d'irrespectueux vis-à-vis de Marie. Simplement le fait que maintenant Jésus ne parle pas à sa mère en disant « Maman, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Il dit « Femme ». Certains pensent, et je crois qu'ils ont raison, qu'à partir de ce moment-là, Jésus quitte son rôle de fils de Marie. Je dis bien son rôle, parce qu'il est le fils de Marie. Il quitte son rôle de fils de Marie pour devenir le Sauveur. Le Sauveur, le Messie qui est en marche. En marche pour son ministère, en marche vers la croix, et donc vers la résurrection, et donc en marche vers sa destinée de fils de Dieu et de Sauveur du monde. Un commentateur, je crois que c'était un catholique, a dit un jour, on pourrait traduire cette parole de Jésus à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?»« Maman, laisse-moi faire. » La preuve, c'est qu'aussitôt après, quand Marie dit « Faites tout ce qu'il vous dira » au passage, notons que c'est quand même un excellent conseil. C'est la seule parole de Marie dans toute la Bible, à part sa rencontre avec sa cousine Élisabeth. C'est la seule parole de Marie pendant tout le ministère de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Pas ce que moi je dis, mais faites tout ce qu'il vous dira. Alors, les gens, les responsables du repas, viennent vers Jésus. Et Jésus, et c'est là le tournant de l'histoire. Le premier tournant, c'était, ils ont invité Jésus. Le deuxième tournant, c'est quand, sous l'instigation de Marie, tout le monde comprend que seul Jésus va pouvoir les tirer de cette difficulté. Et le troisième tournant, c'est maintenant. Lorsque les responsables du repas, ceux qui servent le repas, peut-être on pourrait dire aujourd'hui le traiteur, vient vers Jésus et Jésus donne un ordre. Vous avez sans doute remarqué avec moi que dans la Bible, tout tourne autour de l'obéissance. La foi elle-même est un acte d'obéissance. La foi est un acte d'obéissance. Le fait d'écouter, parce que la Bible insiste beaucoup sur l'importance de l'écoute, le fait d'écouter est important parce qu'on écoute d'abord, on entend et ensuite on obéit. Nous sommes appelés à être des serviteurs de Dieu. Paul ira même jusqu'à dire que nous sommes esclaves de Christ. Or, quelle est la raison d'être de l'esclave, si ce n'est d'écouter, d'être tous les jours à l'écoute de son maître pour entendre ses ordres et ensuite pour obéir. C'est la vie même de l'esclave. Jésus donne un ordre. Il y avait là des grandes, comment on pourrait appeler, des grandes cruches qui étaient assez grosses puisque, comme le texte a été lu tout à l'heure, chaque cruche pouvait contenir une centaine de litres d'eau. Ces cruches servaient pour les Juifs qui voulaient se laver, se purifier avant de manger notamment. Et il y en avait 6. Jésus a dit, remplissez d'eau ces cruches. Alors vous avez compris avec moi, même si vous n'avez pas un premier prix de mathématiques, vous avez compris avec moi que 6 cruches de 100 litres chacune, ça fait environ 600 litres. Ça doit faire 600 litres exactement, à quelque chose près, parce que quand on les remplit, on ne fait pas trop attention, on les remplit plus ou moins jusqu'au bord. Et Jésus, nous reviendrons tout à l'heure sur cette quantité extrême, à moins qu'ils étaient 3000 au repas, ils étaient sans doute nombreux. D'abord le fait que Jésus donne un ordre. Jésus donne toujours des ordres. Lorsqu'un malade vient vers lui, ou lorsque, par exemple, Jésus va dire « Va, ta foi t'a guéri », Lorsque le père d'un enfant malade au bord de la mort vient vers lui, Jésus lui dit « Va, rentre chez toi, ton fils est vivant, ton fils est guéri », etc., etc. Lorsqu'il se trouve devant le tombeau de Lazare et que ses sœurs sont là, inquiètes parce qu'il est mort déjà depuis quatre jours, et qu'elles disent « Mais si on ouvre le tombeau, il est mort, ça va sentir », Jésus donne un ordre. Ôtez la pierre. Et bien sûr, parce que les gens obéissent et enlèvent la pierre qui ferme l'entrée du tombeau, Jésus peut agir. Pourquoi ? Parce qu'on a obéi. Lorsque le général syrien Naaman, dans le deuxième livre des Rois, découvre qu'il est malade et qu'il a une forme de lèpre sur sa peau, il part en Israël parce que la jeune fille qui est la servante de sa femme lui a indiqué qu'il y a un prophète en Israël qui guérit les gens qui sont malades au nom de Dieu. Alors il va. Et quand il rencontre le prophète lui dit « Va, il donne un ordre, va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et après la 7e fois, quand tu ressortiras de l'eau, tu seras guéri. Ta peau sera absolument claire et libéré de toute pustule, de toute marque de la lèpre. Et c'est parce que Naaman obéit, même si au début il ne voulait pas, parce qu'il pensait qu'il y avait dans son propre pays des rivières plus belles, à l'eau plus limpide que le Jourdain, il s'est dit « mais c'est mieux, j'aille là-bas ». Mais on lui a dit « fais ce qui t'a été dit ». Et Naaman se baigne 7 fois dans l'eau complètement, et bien sûr, quand il en ressort, il est complètement guéri. Toute vie chrétienne tourne autour de l'obéissance, qui elle-même est une expression de notre foi. On obéit parce qu'on est sûr que la parole est vraie. On obéit parce qu'on est sûr que derrière, il va y avoir autre chose. Lorsque les responsables du repas ou les serveurs ou le traiteur obéissent à Jésus, le miracle est déjà en marche. Ils mettent de l'eau dans les outres, dans les cruches, mais lorsque le responsable du repas goûte, il découvre que ce n'est plus de l'eau, c'est du vin. Jésus a fait le miracle qui amène la qualité. Il n'y avait plus de vin, Jésus en crée en un instant. La Bible nous montre que chaque fois que nous obéissons à Dieu, Dieu se met en marche. Chaque fois que nous respectons sa parole, Dieu se met en marche. Il y a bien sûr ce texte de l'Épître aux Éphésiens qui dit que Dieu peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Et c'est vrai que très souvent, dans la Bible, dans l'histoire de l'Église même, nous voyons que Dieu accomplit des miracles lorsque nous obéissons. Jésus a voulu montrer à ces jeunes époux qui démarraient dans la vie, qui n'avaient peut-être pas grand-chose encore, qu'ils détenaient la clé pour que leur vie soit une vie réussie, pour que leur couple soit un couple qui vive une vie réussie. Jésus, alors là c'est le côté un peu extravagant peut-être, quelqu'un a écrit même un livre sur la grâce extravagante de Dieu, voulant dire par là que Dieu non seulement pourvoit nos besoins, mais qu'il pourvoit d'une manière très riche et très abondante. En fait, il remplit, il nous remplit quand il pourvoit nos besoins. Il ne nous donne pas un peu ou juste ce qu'il faut. Par exemple, si nous demandons 3 litres de lait, il ne va pas nous donner 3 litres de lait, il va nous donner beaucoup plus, parce qu'il veut nous montrer qu'il est le Dieu inépuisable. C'est en ce sens que l'on peut parler de l'extravagance de Dieu. Quel est le but de tout ça ? Parce que 100 litres par 6, 600 litres, 600 litres de vin, ça peut paraître considérable. Peut-être a-t-il voulu dire à ceux qui étaient là, vous pourrez en emporter un peu chacun, comme ça vous vous rappellerez qui je suis. Peut-être a-t-il voulu faire un geste pour montrer qu'il est vraiment à l'origine de tout et qu'il peut tout multiplier, comme il a multiplié plus tard le pain et les poissons, à 2-3 reprises. Mais quel est finalement le but et la morale de l'histoire ? Le but, nous le découvrons au verset 11, dans sa dernière partie, dans sa deuxième partie. Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous revenons au point de départ. Le but de l'Évangile, le but de l'action de Dieu, c'est que nous croyons. Précisons une chose. Les disciples, les six disciples de Jésus, et sans doute sa mère, Marie, croyaient déjà. Mais leur foi avait besoin d'être encouragée. Les premiers disciples ont suivi Jésus. Pourquoi ? L'un d'entre eux a dit « Nous avons trouvé le Messie » quelques jours avant. Donc, ils croyaient déjà que Jésus avait un destin spectaculaire, un destin extraordinaire. Et c'est pour cela qu'ils l'ont suivi. Ils ont déjà marqué, manifesté leur foi envers Jésus. Mais le miracle de Dieu va intensifier leur foi. Il va l'établir à un nouveau niveau. Le but de la foi, le but de l'Évangile, c'est cela. Premièrement, que nous croyons. Quelqu'un a dit, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, a dit, « Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci, Dieu existe, et il récompense ceux qui le cherchent. » La foi doit d'abord nous amener à croire que Dieu existe. Ensuite, quand nous avons rencontré Dieu, nous devons nous nourrir de sa parole et laisser sa parole nous changer. C'est ce qu'on appelle vivre la vie chrétienne, marcher avec Dieu. La foi se développe ensuite dans notre cœur quand nous nourrissons de sa parole, quand nous l'écoutons, quand nous la lisons, pardon, avec un cœur bien disposé. Quand nous comprenons le message et que nous le retenons, c'est le sens de la parabole du semeur. Nous entendons la parole, nous recevons la semence, nous croyons en elle, nous la laissons porter du fruit en changeant tous les domaines de notre vie et surtout notre façon de penser, de voir les choses. Et en persévérant, en retenant la parole, nous sommes en mesure de continuer à changer. La foi, c'est ce que Jean a dit à la fin de son évangile, finit par nous donner, jour après jour, la vraie vie, nous faire découvrir la vraie vie. La foi se développe bien sûr en lisant attentivement les évangiles afin de croire davantage en Jésus. Nous n'avons pas là un récit ancien, nous avons là un récit toujours moderne, toujours d'actualité, parce que malheureusement il y a toujours des difficultés dans la vie. Mais la meilleure chose à faire, c'est toujours d'inviter Jésus et à le laisser prendre la direction des choses, des événements. Le premier miracle de Jésus, je termine par cela, a montré qu'il est venu non pas pour appeler ses disciples hors du monde, et de ses tâches ordinaires, mais pour rendre les hommes plus heureux, plus nobles et meilleurs dans le monde. En accomplissant ce miracle dans un événement ô combien humain, profondément humain, malgré la crise, je dirais entre guillemets, malgré la crise, il y a toujours des mariages. Il paraît qu'il y en a moins. Mais peut-être que si les mariages avaient toujours une meilleure qualité, je ne parle pas du jour du mariage et de la cérémonie, mais si les vies de couple de ceux qui sont mariés étaient plus exemplaires, peut-être qu'il y aurait moins de crises et que cela ferait plus envie. Alors, il y a un moyen de régler cela, c'est d'inviter Jésus, même si on n'est pas marié, bien sûr, d'inviter Jésus dans sa vie et surtout, une fois qu'il est là, d'écouter ce qu'il dit, de lui obéir, afin de pouvoir découvrir cette vie dont Jésus a dit qu'il était venu pour que ceux qui croient aient la vie, et la vie en abondance, la vie abondante. Personne ne peut nous donner une vie plus riche que Jésus. Personne ne peut pouvoir nous aider dans nos difficultés mieux que Jésus, parce qu'il est notre Créateur et il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos aspirations, nos désirs. Alors, gardons-le dans notre vie, invitons-le s'il n'y est pas encore, et surtout laissons-lui toute la place pour écouter ses ordres et pour lui obéir. Que son nom soit béni.